Octave Feuillet, La petite comtesse. Georges L. à Paul B. à Paris. Turozel, 15 septembre. Il est 9h du soir, mon ami, et tu arrives d'Allemagne. On te remet ma lettre, dont le timbre t'annonce d'abord que je suis absent de Paris. Tu te permets un geste d'humeur et tu me traites de vagabond. Cependant, tu te plonges dans ton meilleur fauteuil, tu ouvres ma lettre et tu apprends que je suis installé depuis 5 jours dans un moulin de Basse-Normandie. Un moulin, comment diantre, que peut-il faire dans un moulin? Ton front se plisse, tes sourcils se rapprochent, tu déposes ma lettre pour un moment, tu prétends pénétrer ce mystère par le seul effort de ton imaginative. Soudain, un aimable enjouement se peint sur tes traits. Ta bouche exprime l'ironie du sage, tempérée par l'indulgence de l'ami. Tu entrevus dans un nuage d'opéra comique une meunière poudrée, un corsage de rubans en échelle, une jupe fine et courte et les bras à coins dorés. Bref, une de ces meunières dont le cœur fait tic-tac avec accompagnement de hautbois. Mais les grâces qui jouent sans cesse devant ta pensée l'égarent parfois. Ma meunière ressemble à la tienne comme je ressemble au jeune Colin. Elle est coiffée d'un vaste bonnet de coton auquel la couche la plus intense de farine ne réussit pas à rendre sa couleur primitive. Elle porte un jupon d'une laine grossière qui écorcherait la peau d'un éléphant. Bref, il m'arrive fréquemment de confondre la meunière avec le meunier. Après quoi, il est superflu d'ajouter que je suis nullement curieux de savoir si son cœur fait tic-tac. La vérité est que, ne sachant comment tuer le temps, en ton absence et n'ayant pas lieu d'espérer ton retour avant un mois, c'est ta faute. J'ai sollicité une mission. Le conseil général du département de venait tout à point d'émettre le vœu qu'une certaine abbaye ruinée, dite l'abbaye du Rosel, fût classée parmi les monuments historiques. On m'a chargé d'examiner de près les titres de la postulante. Je me suis rendu en toute hâte au chef-lieu de ce département artistique, où j'ai fait mon entrée avec une gravité importante d'un homme qui tient entre ses mains la vie ou la mort d'un monument cher au pays. J'ai pris dans l'hôtel quelques renseignements. Grande a été ma mortification quand j'ai reconnu que personne ne paraissait soupçonner une abbaye du Rosel existant ou eût jamais existé à 100 lieues à la ronde. Je me suis présenté à la préfecture sous le coup de ce désenchantement. Le préfet, qui est V, que tu connais, m'a reçu avec sa bonne grâce ordinaire, mais aux questions que je lui adressais sur l'état des ruines qu'il s'agissait de conserver à l'amour traditionnel de ses administrés, il m'a répondu avec un sourire distrait que sa femme, qui avait vu ces ruines dans une partie de campagne pendant son séjour au bain de mer, m'en parlerait mieux qu'il ne saurait le faire. Il m'invita à dîner, et le soir, Madame V, après les combats ordinaires de la pudeur expirante, me montra sur son album quelques vues des fameuses ruines dessinées avec goût. Elle s'exalta tout doucement, me parlant de ces vénérables restes, encadrés, si l'on en croit, dans un site enchanteur, et fort propre surtout aux parties de campagne. Un regard suppliant et corrupteur termina sa harangue. Il me semble évident que cette jeune femme est la seule personne du département qui porte à cette pauvre vieille abbaye un intérêt véritable, et que les pères conscrits du conseil général ont émis un vœu de pure galanterie. Au surplus, il m'est impossible de ne pas me ranger à leur opinion. L'abbaye a de beaux yeux, elle mérite d'être classée, et elle le sera. Mon siège était donc fait dès ce moment même. Mais il fallait encore l'écrire et l'appuyer de quelques pièces justificatives. Malheureusement, les archives et les bibliothèques locales n'abondent pas en traditions relatives à mon sujet. Après 2 jours de fouilles consciencieuses, je n'avais recueilli que de rares et insignifiants documents qui peuvent se résumer dans ces deux lignes: l'abbaye du Rozel, commune du Rozel, a été habitée de temps immémorial par les moines qui l'ont quittée lorsqu'elle a été détruite. C'est pourquoi je résolus d'aller sans plus de retard demander leur secret à ces ruines mystérieuses et de multiplier au besoin les artifices de mon crayon pour suppléer à la concision forcée de ma plume. Je partis mercredi matin pour le gros bourg de qui n'est qu'à 2 ou 3 lieues de l'abbaye. Un coche normand, compliqué d'un cocher normand, me promena tout le jour, comme un monarque indolent, le long des haies normandes. Le soir, j'avais fait 12 lieues et mon cocher 12 repas. Le pays est beau, quoique d'un caractère agreste un peu uniforme. Sous un bocage éternel se déploie une verdure opulente et monotone, dans l'épaisseur de laquelle ruminent des bœufs satisfaits. Je conçois les 12 repas de mon cocher. L'idée de manger doit se présenter fréquemment et presque uniquement à l'imagination de tout homme qui passe sa vie au milieu de cette grasse nature dont l'herbe même donne appétit. Vers le soir, cependant, l'aspect du paysage changea. Nous entrâmes dans des plaines basses, marécageuses et nues comme des steppes, qui s'étendaient de chaque côté de la route. Le bruit des roues sur la chaussée prit une sonorité creuse et vibrante. Des joncs de couleur sombre et de hautes herbes d'apparence malsaine couvraient à perte de vue la surface noirâtre du marais. J'aperçus au loin, à travers le crépuscule et derrière un rideau de pluie, 2 ou 3 cavaliers lancés à toute bride qui parcouraient, comme affolés, ces espaces sans bornes. Ils s'ensevelissaient par intervalles dans les bas-fonds du pâturage et reparaissaient tout à coup, galopant toujours avec la même frénésie. Je ne pouvais imaginer vers quel but idéal se précipitaient ces fantômes équestres. Je n'eus garde de m'en informer. Le mystère est doux et sacré. Le lendemain, je m'acheminai vers l'abbaye en menant dans mon cabriolet un grand paysan qui avait les cheveux jaunes comme Cérès. C'était un valet de ferme qui demeurait depuis sa naissance à 2 pas de mon monument. Il m'avait entendu le matin prendre des informations dans la cour de l'auberge et s'était offert obligeamment à me conduire aux ruines qui étaient la première chose qu'il eût vue en venant au monde. Bon, je n'avais nul besoin d'un guide. J'acceptais cependant l'offre de ce garçon dont l'officieux bavardage semblait me promettre une conversation suivie où j'espérais surprendre quelques légendes intéressantes. Mais dès qu'il eut pris place à mes côtés, le drôle devint muet. Mes questions semblaient même, je ne sais pas pourquoi, lui inspirer une profonde méfiance, voisine de la colère. J'avais affaire au génie des ruines, gardien jaloux de leurs trésors. En revanche, j'eus l'avantage de le ramener chez lui en voiture. C'était apparemment ce qu'il avait voulu, et il eut tout forfait d'être satisfait de ma complaisance. Après avoir déposé devant sa porte cet agréable compagnon, je dus mettre moi-même pied à terre un escalier de rocher serpentant sur le flanc d'une lande, me conduisit au fond d'une étroite vallée qui s'arrondit et s'allonge entre une double chaîne de hautes collines boisées. Une petite rivière y dort sous les aunes, séparant 2 bandes de prairies fines et moelleuses comme les pelouses d'un parc. On la traverse sur un vieux pont d'une seule arche qui dessine dans une eau tranquille le reflet de sa gracieuse ogive. Sur la droite, les collines se rapprochent en forme de cirque et semblent réunir leurs courbes verdoyantes. À gauche, elles s'évasent et vont se perdre dans la masse haute et profonde d'une forêt. La vallée est ainsi close de toutes parts et offre un tableau dont le calme, la fraîcheur et l'isolement pénètrent l'âme. Si l'on pouvait jamais trouver la paix hors de soi-même, ce doux asile la donnerait. Il en donne du moins pour un instant l'illusion. Le site eût suffi pour me faire deviner l'abbaye qui, sans doute, succéda à l'ermitage. Dans cette période de transition brutale et convulsive qui ouvrit si péniblement l'ère moderne, quel immense besoin de repos et de recueillement devait se faire sentir aux âmes délicates et aux esprits contemplatifs. Je lis dans le cœur du moine, du poète, du spiritualiste inconnu que le hasard amena un jour au milieu de cet âge terrible, que la pente de ces collines et qui découvrit soudain le trésor de solitude qu'elle recelait, je me figure l'attendrissement de ce rêveur fatigué en face d'une scène si paisible. Je me le figure et en vérité, je ne suis pas loin de le partager. Notre époque, à travers de grandes dissemblances, n'est pas sans quelques rapports essentiels avec les premiers temps du Moyen-Âge. Le désordre moral, la convoitise matérielle, la violence barbare qui caractérisait cette phase sinistre de notre histoire ne semble éloigné de nous aujourd'hui que par la distance qui sépare la théorie de la pratique, le complot de l'exécution et l'âme perverse de la main criminelle. Les ruines de l'abbaye sont adossées à la forêt. Ce qui survit de l'abbaye elle-même est peu de chose. À l'entrée de la cour, une porte monumentale, une aile de bâtiment du XIIe siècle où loge la famille du Meunier dont je suis l'hôte, la salle du chapitre, remarquable par d'élégants arceaux et quelques traces de peinture murale, enfin, deux ou trois cellules, dont une paraît avoir servi de lieu de correction, si j'en juge par la solidité de la porte et des verrous. Le reste a été démoli et se retrouve par fragments dans les maisonnettes du voisinage. L'église, qui a presque les proportions d'une cathédrale, est d'une belle conservation et d'un effet merveilleux. Le portail et le chevet de l'abside ont seuls disparu. Toute l'architecture intérieure, les voussures, les hautes colonnes sont intactes et comme faites d'hier. Là, il semble qu'un artiste ait présidé à l'œuvre de destruction. Un coup de pioche magistral a ouvert aux deux extrémités de l'église, à la place du portail et à la place de l'autel, deux baies gigantesques, de sorte que le regard du seuil de l'édifice plonge dans la forêt comme à travers un profond arc triomphal. Dans ce lieu solitaire, cela est inattendu et solennel. J'en fus ravi. « Monsieur, dis-je au meunier, qui depuis mon arrivée observait de loin chacun de mes pas avec cette méfiance féroce qui semble particulière au pays, je suis chargé d'étudier et de dessiner ces ruines. Ce travail me demandera plusieurs jours. Ne pourriez-vous m'épargner une course quotidienne du bourg à l'abbaye en me logeant chez vous ? Tant bien que mal, pendant une semaine ou deux. » Le meunier, normand de race, m'examina des pieds à la tête sans me répondre, en homme qui sait que le silence est d'or. Il me toisa, me jaugea, me pesa, et finalement, desserrant ses lèvres enfarinées, il appela sa femme. La meunière apparut alors sur le seuil de la salle du chapitre, converti en étable à veau, et je dus lui renouveler ma demande. Elle m'examina à son tour, mais moins longuement que son mari, et avec le flair supérieur de son sexe. Sa conclusion fut, comme j'avais droit de m'y attendre, celle du process dans le malade. Dignus es intrare. Le meunier, qui vit la tournure que prenaient les choses, souleva son bonnet, me régala d'un sourire. Ces braves gens, du reste, une fois la glace rompue, s'ingénièrent à me dédommager par mille attentions empressées de la prudence de leur accueil. Ils voulaient m'abandonner leur propre chambre ornée des aventures de Télémaque, à laquelle je préférais, comme eût fait Mentor, une cellule d'une austère nudité dont la fenêtre à petits carreaux losangés s'ouvre sur le portail ruiné de l'église et sur l'horizon de la forêt. Plus jeune de quelques années, j'aurais joui très vivement de cette poétique installation. Mais je grisonne, ami Paul, ou du moins j'en ai peur, bien que j'essaye encore d'attribuer à de simples jeux de lumière les tons douteux dont ma barbe s'émaille au soleil de midi. Toutefois, si ma rêverie a changé d'objet, elle dure encore et me charme toujours. Mon sentiment poétique s'est modifié, et je crois qu'il s'est élevé. L'image d'une femme n'est plus l'élément indispensable de mon rêve. Mon cœur, plus calme et qui s'étudie à l'être, se retire peu à peu du champ où s'exerce ma pensée. Je ne puis, je l'avoue, trouver un plaisir suffisant dans les pures et sèches méditations de l'intelligence. Il faut que mon imagination parle d'abord et donne le branle à mon cerveau. Car je suis né romanesque. Romanesque, je mourrai. Et tout ce qu'on peut me demander, tout ce que je puis obtenir de moi à l'âge où la bienséance commande déjà la gravité, c'est de faire des romans sans amour.
Les monuments du passé favorisent cette disposition incurable de mon esprit. Ils m'aident à ressusciter les mœurs, les passions, les idées de leurs anciens habitants et à interroger, sous les caractères variés de chaque époque, la vieille énigme de la vie. Dans cette cellule où je t'écris, je ne manque pas d'évoquer chaque soir des robes de bure et des visages macérés. Un homme m'apparaît, un moine, tantôt à genoux dans cet angle obscur, sur cette dalle usée, plongé dans les heureuses extases de la foi, tantôt accoudé sur cette noire tablette de chêne, couvrant d'auréoles d'or le parchemin des micelles, perpétuant les œuvres du génie antique, ou poursuivant sa science qui l'effraie jusqu'aux limites de la magie. Un autre fantôme, debout près de l'étroite fenêtre, attache son regard humide sur la profondeur de ses bois, qui lui rappelle les châches chevaleresques et les pâles froids des châtelaines. Oh, tu en diras ce qu'il te plaira. J'aime les moines. Oh, non pas les moines de la décadence, les moines fainéants, pansus et vergaillards, qui firent la joie de nos pères et qui ne font pas la mienne. J'aime et je vénère cette ancienne société monastique, telle que je me la figure, recrutée parmi les races malheureuses et vaincues, conservant seule au milieu d'un monde barbare le sentiment et le goût des jouissances de l'esprit, ouvrant un refuge et le seul refuge possible dans une telle époque à toute intelligence qui laissait voir, fût-ce sous le sillon de l'esclave, quelque étincelle de génie. Combien de poètes, de savants, d'artistes, d'inventeurs anonymes ont dû bénir pendant 10 siècles ce droit d'asile respecté qui les avait arrachés aux misères poignantes et à la vie bestiale de la glèbe. L'abbaye aimait à découvrir ces pauvres penseurs plébéiens et à seconder le développement de leurs aptitudes diverses. Elle leur assurait le pain de chaque jour et le doux bienfait du loisir. Elles s'honoraient et se paraient de leurs talents. Quoique leur cercle fût étroit, ils exerçaient, du moins librement, les facultés qu'ils tenaient de Dieu. Ils vivaient heureux, quoiqu'ils dussent mourir ignorés. Que plus tard le cloître se soit écarté de ses nobles et sévères traditions, qu'il ait dégénéré de chute en chute jusqu'au frère Fredon et jusqu'au directeur spirituel de Panurge, cela est possible. Il a dû subir le destin commun à toutes les institutions qui ont fait leur temps et qui survivent à leur œuvre accomplie. Toutefois, il se peut bien que l'esprit gaulois de la bourgeoisie émancipée, auquel vint s'ajouter bientôt l'esprit de la réforme, ait dessiné dans nos vieilles abbayes plus de caricatures que de portraits. Quoi qu'il en soit, même en lisant Rabelais avec le respect qu'il convient, aucun homme doué de pensée ne saurait oublier que durant cette triste nuit du Moyen-Âge, le dernier rayon de la pure vie intellectuelle éclaire le front pâle du moine. Jusqu'à présent, l'ennui m'a épargné dans ma solitude. T'avouerai-je même que j'y éprouve un contentement singulier. Il me semble que je suis à 1000 lieues des choses d'ici-bas, et qu'il y a une sorte de trêve et de temps d'arrêt dans la misérable routine de mon existence, à la fois tourmentée et banale. Je savoure ma complète indépendance avec l'allégresse naïve d'un Robinson de 12 ans. Je dessine quand il me plaît. Le reste du temps, je me promène çà et là à l'aventure, en ayant grand soin de ne jamais franchir les bornes du vallon sacré. Je m'assois sur le parapet du pont et je regarde couler l'eau. Je vais à la découverte dans les ruines. Je m'enfonce dans les souterrains, j'escalade les degrés rompus du beffroi. Je ne puis les redescendre et je demeure à cheval sur une gargouille, faisant une assez sotte figure jusqu'à ce que le meunier m'apporte une échelle. Je m'égare la nuit dans la forêt et je dois passer les chevreuils au clair de lune. Que veux-tu? Tout cela me berce agréablement et me produit l'impression d'un rêve d'enfant que je fais dans l'âge mûr. Ta lettre, datée de Cologne et qu'on m'a renvoyée ici suivant mes instructions, a seule troublé ma béatitude. Je me console difficilement d'avoir quitté Paris presque à la veille de ton retour. Que le ciel confonde tes caprices et ton indécision. Tout ce que je puis faire maintenant, c'est de hâter mon travail. Mais où trouver les documents historiques qui me manquent? Je tiens sérieusement à sauver ces ruines. Il y a là un paysage rare, un tableau de prix qu'on ne peut laisser périr sans vandalisme. Et puis j'aime les moines, te dis-je. Je veux rendre à leur ombre cet hommage de sympathie. Oui, oh, si j'avais vécu il y a quelques 1000 ans, j'aurais certainement cherché parmi eux le repos du cloître en attendant la paix du ciel. Quelle existence m'eût mieux convenu? Sans souci de ce monde et assuré de l'autre, sans trouble du cœur ni de l'esprit, j'aurais écrit paisiblement de douces légendes auxquelles j'eusse été crédule, j'aurais déchiffré curieusement des manuscrits inconnus et découvert en pleurant de joie l'Iliade ou l'Énéide, j'aurais dessiné des rêves de cathédrale, chauffé des alambics, et peut-être inventer la poudre. Ce n'est pas ce que j'aurais fait de mieux. Allons, il est minuit, frère, il faut dormir. Post-scriptum. Il y a des spectres. Oui, je fermais cette lettre, mon ami, au milieu d'un silence solennel, quand soudain mon oreille s'est emplie de bruits mystérieux et confus qui paraissaient venir du dehors, et où j'ai cru distinguer le sourd murmure d'une foule. Je me suis approché, fort surpris, de la fenêtre de ma cellule, et je ne saurais trop te dire la nature précise de l'émotion que j'ai ressentie en apercevant les ruines de l'église, éclairées d'une lumière resplendissante. Le vaste portail et les ogives béantes jetaient des flots de clarté jusque sur les bois lointains. Ce n'était point, ce ne pouvait être un incendie. J'entrevoyais d'ailleurs, à travers les trèfles des pierres, des ombres de taille surhumaine qui passaient dans la nef, paraissant exécuter avec une sorte de rythme quelque cérémonie bizarre. J'ai brusquement ouvert ma fenêtre et au même instant, de bruyantes fanfares ont éclaté dans la ruine et ont fait retentir tous les échos de la vallée. Après quoi, j'ai vu sortir de l'église une double file de cavaliers armés de torches et sonnant du cor. Quelques-uns vêtus de rouge, d'autres drapés de noir et la tête couverte de panaches. Cette étrange procession a suivi, toujours dans le même ordre, avec le même éclat et les mêmes fanfares, le chemin ombragé qui borde les prairies, et arrivé sur le petit pont, elle a fait une station. J'ai vu les torches s'élever, s'agiter et lancer des gerbes d'étincelles. Les cors ont fait entendre une cadence prolongée et sauvage. Puis soudain, toute lumière a disparu, tout bruit a cessé, et la vallée s'est ensevelie de nouveau dans les ténèbres et dans le silence profond de minuit. Voilà ce que j'ai vu, entendu. Et toi, qui arrives d'Allemagne, as-tu rencontré le chasseur noir? Non. Pends-toi donc. Chapitre 2. 16 septembre. L'ancienne forêt de l'abbaye appartient à un riche propriétaire du pays, le marquis de Malouet, descendant de Nemrod, et dont le château paraît être le centre social du pays. Il y a presque chaque jour, en cette saison, grande chasse dans la forêt. Hier, la fête s'acheva par un souper sur l'herbe, suivi d'un retour au flambeau. J'aurais volontiers étranglé l'honnête meunier, qui m'a donné à mon réveil cette explication en langue vulgaire de ma balade de minuit. Voilà donc le monde qui envahit avec toutes ses pompes ma chère solitude. Je le maudis, Paul, dans toute l'amertume de mon cœur. Je lui ai dû hier soir, la vérité, une apparition fantastique qui m'a charmé, mais je lui dois aujourd'hui une aventure ridicule dont je suis seul à ne point rire, car j'en suis le héros. J'étais ce matin mal disposé au travail. J'ai dessiné toutefois jusqu'à midi, mais il m'a fallu renoncer. J'avais la tête lourde, l'humeur maussade, je sentais vaguement dans l'air quelque chose de fatal. Je suis rentré un instant au moulin pour y déposer mon attirail. J'ai chicané la meunière, consternée, au sujet de ne sais quelle brouet cruellement indigène qu'elle m'avait servi à déjeuner. J'ai rudoyé les deux enfants de cette bonne femme qui touchait à mes crayons. Enfin, j'ai donné au chien du logis un coup de pied accompagné de sa célèbre formule « Juge, si tu m'avais fait quelque chose !» Assez peu satisfait de moi-même, comme tu le penses, après ces trois petites lâchetés, je me suis dirigé vers la forêt pour m'y dérober autant que possible à la lumière du jour. Je me suis promené près d'une heure sans pouvoir secouer la mélancolie prophétique qui m'obsédait. Avisant enfin au bord d'une des avenues qui traversent la forêt et sous l'ombrage des hêtres un épais lit de mousse, je m'y suis étendu avec mes remords et je n'ai pas tardé à m'y endormir d'un profond sommeil. Dieu, connaît-elle celui de la mort? Je ne sais depuis combien de temps je dormais, quand j'ai été réveillé tout à coup par un certain ébranlement du sol dans mon voisinage immédiat. Je me suis levé brusquement et j'ai vu, à quatre pas de moi, dans l'avenue, une jeune femme à cheval. Mon apparition subite a un peu effrayé le cheval qui a fait un écart. La jeune femme, qui ne m'avait pas encore aperçu, le ramenait en lui parlant. Elle m'a paru jolie, mince, élégante. J'ai entrevu rapidement des cheveux blonds, des sourcils d'une nuance plus foncée, un œil vif, un air de hardiesse et un feutre à panache bleu campé sur l'oreille avec trop de crânerie. Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il faut que tu saches que j'étais vêtu d'une blouse de touriste maculée d'ocre rouge. De plus, je devais avoir cet œil hagard et cette mine effarée qui donnent à celui qu'on éveille en sursaut une physionomie à la fois comique et alarmante. Joint à tout cela, une chevelure en désordre, une barbe semée de feuilles mortes, et tu n'auras aucune peine à t'expliquer la terreur qui a subitement bouleversé la jeune chasseresse au premier regard qu'elle a jeté sur moi. Elle a poussé un faible cri, et tournant bride aussitôt, elle s'est sauvée au galop de bataille. Il m'était impossible de me méprendre sur la nature de l'impression que je venais de produire. Elle n'avait rien de flatteur. Toutefois, j'ai 35 ans et il ne me suffit plus, Dieu merci, du coup d'œil plus ou moins bienveillant d'une femme pour troubler la sérénité de mon âme. J'ai suivi d'un regard souriant la fuyante amazone. À l'extrémité de l'allée dans laquelle je venais de ne point faire sa conquête, elle a tourné brusquement à gauche, s'engageant dans une avenue parallèle. Je n'ai eu qu'à traverser le fourré voisin pour la voir rejoindre une cavalcade composée de 10 ou 12 personnes qui semblaient l'attendre et auxquelles elle criait de loin d'une voix entrecoupée. « Messieurs, messieurs, un sauvage! Il y a un sauvage dans la forêt !» Intéressé par ce début, je m'installe commodément derrière un épais buisson, l'œil et l'oreille également attentifs. On entoure la jeune femme. On suppose d'abord qu'elle plaisante, mais son émotion est trop sérieuse pour n'avoir point d'objet. Elle a vu, elle a bien clairement vu, non pas précisément un sauvage, si l'on veut, mais un homme déguenillé, dont la blouse en lambeaux semblait couverte de sang, dont le visage, les mains et toute la personne étaient d'une saleté repoussante, la barbe effroyable, les yeux à moitié sortis de leurs orbites, bref, un individu près duquel le plus atroce brigand de Salvator n'est qu'un berger de Watteau. Jamais amour-propre d'homme ne fut à pareille fête. Cette charmante personne ajoutait que je l'avais menacée et que je m'étais jeté, comme le spectre de la forêt du Mans, à la tête de son cheval. À ce récit merveilleux répond un cri général et enthousiaste. « Donnons-lui la chasse, cernons-le, traquons-le, hop, hourra !» Et là-dessus, toute la cavalerie s'ébranle au galop sous la direction de l'aimable conteuse. Je n'avais, suivant toute apparence, qu'à demeurer tranquillement blotti dans ma cachette pour dépister les chasseurs qui m'allaient chercher dans l'avenue où j'avais rencontré l'Amazone. Malheureusement, j'eus la pensée, pour plus de sûreté, de gagner le fourré qui se présentait en face de moi. Comme je traversais le carrefour avec précaution, un cri de joie sauvage m'apprend que je suis aperçu, et en même temps je vois l'escadron tourner bride et revenir sur moi comme un torrent. Un seul parti raisonnable me restait à prendre. C'était de m'arrêter et d'affecter l'étonnement d'un honnête promeneur qu'on dérange et de déconcerter mes assaillants par une attitude à la fois digne et simple, mais saisie d'une sotte honte qu'il est plus facile de concevoir que d'expliquer. Convaincu d'ailleurs qu'un effort vigoureux allait suffire pour me délivrer de cette poursuite importune et pour m'épargner l'embarras d'une explication, je commets la faute, à jamais déplorable, de hâter le pas, ou plutôt, pour être franc, de me sauver à toutes jambes. Je traverse le chemin comme un lièvre et je m'enfonce dans le fourré, salué au passage d'une salve de joyeuses clameurs. Dès cet instant, mon destin était accompli. Toute explication honorable me devenait impossible. J'avais ostensiblement accepté la lutte avec ses chances les plus extrêmes. Cependant, je possédais encore une certaine dose de sang-froid, et tout en fendant les broussailles avec fureur, je me berçais de réflexions rassurantes. Une fois séparé de mes persécuteurs par l'épaisseur d'un fourré inaccessible à la cavalerie, je serais gagné assez d'avance pour me rire de leurs vaines recherches. Cette dernière illusion s'est évanouie lorsque, arrivé à la limite du couvert, j'ai reconnu que la troupe maudite s'était divisée en deux bandes qui m'attendaient l'une et l'autre au débouché. À ma vue, il s'est élevé une nouvelle tempête de cris et de rires, et les trompes de chasse ont retenti de toutes parts. J'ai eu le vertige, la forêt a tourbillonné autour de moi. Je me suis jeté dans le premier sentier qui s'est offert à mes yeux, et ma fuite a pris le caractère d'une déroute désespérée. La légion implacable des chasseurs et des chasseresses n'a pas manqué de s'élancer sur mes traces avec un redoublement d'ardeur et de stupide gaieté. Je distinguais toujours à leur tête la jeune femme au panache bleu, qui se faisait remarquer par un acharnement particulier et que je vouais de bon cœur aux accidents les plus sérieux de l'équitation. C'était elle qui encourageait ses odieux complices quand j'étais parvenu un instant à leur dérober ma piste. Elle me découvrait avec une clairvoyance infernale, me montrait du bout de sa cravache et poussait un éclat de rire barbare quand elle me voyait reprendre ma course à travers les halliers, soufflant, haletant, éperdu, absurde. J'ai couru ainsi pendant un temps que je ne saurais apprécier, accomplissant des prouesses de gymnastiques inouïes, perçant les taillets épineux, m'embourbant dans les fondrières, sautant les fossés, rebondissant sur mes jarrets avec l'élasticité d'un tigre, galopant à la diable, sans raison, sans but et sans autre espérance que de voir la terre s'ouvrir sous mes pas. Enfin, et par un simple effet du hasard, car depuis longtemps j'avais perdu toute notion topographique, j'ai aperçu les ruines devant moi. J'ai franchi par un dernier élan l'espace libre qui les sépare de la forêt. J'ai traversé l'église comme un excommunié et je suis arrivé tout flambant devant la porte du moulin. Le meunier et sa femme étaient sur le seuil, attirés par le bruit de la cavalcade qui me suivait de près. Ils m'ont regardé avec une expression de stupeur. J'ai vainement cherché quelques paroles d'explication à leur jeter en passant, et après d'incroyables efforts d'intelligence, je n'ai pu que leur murmurer niaisement. Si on me demande, dites que je ne suis pas là. Puis j'ai gravi d'un saut l'escalier de ma cellule, et je suis venu tomber sur mon lit dans un état de complet épuisement. Cependant, Paul Lachasse se précipitait tumultueusement dans la cour de l'abbaye. J'entendais le piétinement des chevaux, la voix des cavaliers et même le son de leurs bottes sur les dalles du seuil, ce qui ne prouvait qu'une partie d'entre eux avait mis pied à terre et me menaçait d'un dernier assaut. Je me suis relevé avec un mouvement de rage et j'ai regardé mes pistolets. Heureusement, après quelques minutes de conversation avec le meunier, les chasseurs se sont retirés, non sans me laisser entendre clairement que, s'ils avaient pris meilleure opinion de ma moralité, ils emportaient une idée fort réjouissante de l'originalité de mon caractère. Tel est mon ami l'historique fidèle de cette journée malheureuse, où je me suis souvent couvert franchement et des pieds à la tête d'une espèce d'illustration à laquelle tout Français préférera celle du crime. J'ai à cette heure la satisfaction de savoir que je suis, dans un château voisin, au milieu d'une société de brillants cavaliers et de belles jeunes femmes, un texte de plaisanterie inépuisable. Je sens de plus, depuis mon mouvement de flanc, comme on a coutume d'appeler à la guerre les retraites précipitées,
que j'ai perdu à mes propres yeux quelque chose de ma dignité. Et je ne puis me dissimuler en outre que je suis loin de jouir auprès de mes hôtes rustiques de la même considération. En présence d'une situation si gravement compromise, j'ai dû tenir conseil. Après une courte délibération, j'ai rejeté bien loin, comme puéril et pusillanime, le projet que me suggérait mon amour-propre aux abois, celui de quitter ma résidence et même d'abandonner le pays. J'ai pris le parti de poursuivre philosophiquement le cours de mes travaux et de mes plaisirs, de montrer une âme supérieure aux circonstances et de donner enfin aux Amazones, aux centaures et aux meuniers, le beau spectacle du sage dans l'adversité. Chapitre 3. 20 septembre. Je reçois ta lettre. Tu es de la vraie race des Nabis du Monotapa. Mais quel enfantillage! Voilà la cause de ton brusque retour. Un rien, un méchant cauchemar qui de nuit de suite te fait entendre ma voix t'appelant à mon secours. Ah, fruits amers de la détestable cuisine allemande! Vraiment, Paul, tu es bête. Tu me dis pourtant des choses qui me touchent jusqu'aux larmes. Je ne saurais te répondre à mon gré. J'ai le cœur tendre et le verbe sec. Je n'ai jamais pu dire à personne « je vous aime ». Il y a un démon jaloux qui altère sur mes lèvres toute parole de tendresse et lui donne une inflexion d'ironie. Mais Dieu merci, tu me connais. Il paraît que je te fais rire quand tu me fais pleurer. Allons, tant mieux. Oui, ma noble aventure de la forêt a une suite dont je me passerai bien. Tous les malheurs dont tu me sentais menacé sont arrivés. Sois donc tranquille. Le lendemain de ce jour néfaste, je débutais par reconquérir l'estime de mes hôtes du moulin, en leur racontant de bonne grâce les plus piquants épisodes de ma course. Je les vis s'épanouir à ce récit. La femme en particulier se pâmait avec des convulsions atroces et des ouvertures de mâchoire formidables. Je n'ai rien vu de si hideux en ma vie que cette grosse joie de Vachère. En témoignage d'un retour de sympathie complet, le meunier me demanda si j'étais chasseur, ôta du croc de sa cheminée un long tube rouillé qui me fit penser à la carabine des bas de cuir, et me le mit entre les mains en me vantant les qualités meurtrières de cet instrument. J'acceptai sa politesse avec une apparence de vive satisfaction, n'ayant jamais eu le cœur de détromper les gens qui croient m'être agréable, et je me dirigeai vers le bois taillis qui couvre les collines portant comme une lance cette arme vénérable qui me paraissait en effet des plus dangereuses. J'allai m'asseoir dans les bruyères et je déposai le long fusil près de moi. Puis je m'amusais à écarter à coups de pierre les jeunes lapins qui venaient jouer imprudemment dans le voisinage d'une machine de guerre dont je ne pouvais répondre. Grâce à ces précautions, pendant plus d'une heure que dura ma chasse, il n'arriva d'accident ni au gibier ni à moi. À tout dire vrai, j'étais bien aise de laisser passer le moment où les chasseurs du château avaient coutume de se mettre en campagne, ne me souciant pas, par un reste de vaine gloire, de me trouver sur leur passage ce jour-là. Vers 2 heures de l'après-midi, je quittai mon lit de menthe et de serpolet, convaincu je n'avais à redouter désormais aucune rencontre importune. Je remis la canardière au meunier, qui sembla un peu étonné, peut-être, de me revoir les mains vides, et plus probablement de me revoir en vie. J'allai m'installer en face du portail et j'entrepris d'achever une vue générale de la ruine, aquarelle magnifique qui doit enlever les suffrages du ministre. J'étais profondément absorbé dans mon travail et quand je crus tout à coup entendre plus distinctement qu'à l'ordinaire ce bruit de cavalerie qui, depuis ma mésaventure, chagrinait sans cesse mes oreilles. Je me retournai avec vivacité et j'aperçus l'ennemi à 200 pas de moi. Il était cette fois en tenue de ville, paraissant équipé pour une simple promenade. Il avait fait, depuis la veille, quelques recrues des deux sexes et offrait véritablement une masse imposante. Quoique préparé de longue main à cette occurrence, je ne pus me défendre d'un certain malaise et je pestai fort contre ces désœuvrés infatigables. Toutefois, je n'eus même pas la pensée de faire retraite, j'avais perdu le goût de la fuite pour le reste de mes jours. À mesure que la cavalcade approchait, j'entendais des rires étouffés, des chuchotements dont le secret ne m'échappait point. Je dois t'avouer qu'un grain de colère commençait à fermenter dans mon cœur, et tout en continuant ma besogne avec l'apparence du plus vif intérêt et des poses de tête admiratives devant mon aquarelle, je prêtais à la scène qui se passait derrière moi une attention sombre et vigilante. Au surplus, l'intention définitive des promeneurs parut être de ménager mon infortune. Au lieu de suivre le sentier au bord duquel j'étais établi, et qui était le chemin le plus court pour gagner les ruines, ils s'écartèrent un peu sur la droite et défilèrent en silence. Un seul d'entre eux, quittant le groupe principal, fit brusquement une pointe de côté et vint s'arrêter à 10 pas de mon atelier. Quoique j'eusse le front penché sur mon dessin, je sentis par cette étrange intuition que chacun connaît un regard humain se fixer sur moi. Je levai les yeux d'un air d'indifférence, les rabaissant presque aussitôt. Ce rapide mouvement m'avait suffi pour reconnaître dans cet observateur indiscret la jeune dame au panache bleu, cause première de mes disgrâces. Elle était là, campée sur son cheval, le menton en l'air, les yeux à demi-clos, me considérant des pieds à la tête avec une insolence admirable. J'avais cru devoir d'abord, par égard pour son sexe, m'abandonner sans défense à son impertinente curiosité, mais au bout de quelques secondes, comme elle continuait son manège, je perdis patience, et relevant la tête plus franchement, j'arrêtai mon regard sur le sien avec une gravité polie, mais avec une profonde insistance. Elle rougit, ce que voyant, je la saluai. Elle me fit de son côté une légère inclination, s'éloigna au galop de chasse et disparut sous la voûte de la vieille église. Je demeurai ainsi maître du champ de bataille, savourant avec plaisir le triomphe de fascination que je venais de remporter sur cette petite personne qu'il y avait sûrement du mérite à décontenancer. La promenade dans la forêt dura 20 minutes à peine, et je vis bientôt la brillante Fantasia déboucher pêle-mêle hors du portail. Je feignis de nouveau une profonde abstraction, mais cette fois encore, un cavalier se détacha de la compagnie et s'avança vers moi. C'était un homme de grande taille qui portait un habit bleu boutonné militairement jusqu'à la gorge. Il marchait si droit sur mon petit établissement que je ne pus m'empêcher de lui supposer la résolution arrêtée de passer par-dessus afin de faire rire les dames. Je le surveillai en conséquence d'un œil furtif mais alerte, lorsque j'eus le soulagement de le voir s'arrêter à 2 pas de mon tabouret et ôter son chapeau. « Monsieur, me dit-il d'une voix franche et pleine, voulez-vous me permettre de voir votre dessin ? »
Je lui rendis son salut, m'inclinai en signe d'acquiescement et poursuivis mon travail. Après un moment de silencieuse contemplation, l'inconnu équestre laissa échapper quelques épithètes louangeuses qui semblaient lui être arrachées par la violence de ses impressions. Puis, reprenant la locution directe, « Monsieur, me dit-il, permettez-moi de rendre grâce à votre talent. Nous lui devrons, je n'en puis douter, la conservation de ces ruines qui sont l'ornement de notre pays. » Je quittai aussitôt ma réserve, qui ne plus était qu'une bouderie enfantine, et je répondis, comme il convenait, que c'était apprécié avec beaucoup d'indulgence, une ébauche d'amateur, que j'avais au reste le plus vif désir de sauver ces belles ruines, mais que la partie la plus sérieuse de mon travail menaçait de demeurer très insignifiante, faute de renseignements historiques que j'avais vainement cherchés dans les archives du chef-lieu. « Parbleu, monsieur, reprit le cavalier, vous me faites grand plaisir. J'ai dans ma bibliothèque une bonne partie des archives de l'abbaye. Venez les consulter à votre loisir, je vous en serai reconnaissant. » Je remerciai avec embarras. Je regrettais de n'avoir pas cela su si tôt, plus tôt. Je craignais d'être appelé à Paris par une lettre que j'attendais ce jour même. Cependant, je m'étais levé pour faire cette réponse, dont je m'efforçais d'atténuer la mauvaise grâce par la courtoisie de mon attitude. En même temps, je prenais une idée plus nette de mon interlocuteur. C'était un beau vieillard à large poitrine, qui paraissait porter très vertement une soixantaine d'hivers, et dont les yeux bleus clairs, à fleur de tête, exprimaient la bienveillance la plus ouverte. « Allons, allons, s'écria-t-il, parlons franc. Il vous répugne de vous mêler à cette bande d'étourdis que voilà là-bas, et que je n'ai pu empêcher hier de faire une sottise pour laquelle je vous présente mes excuses. Je me nomme le marquis de Malouet, monsieur. Au surplus, les honneurs de la journée ont été pour vous. On voulait vous voir, vous ne vouliez pas être vu, vous avez eu le dernier mot. » Qu'est-ce que vous demandez? Je ne pus m'empêcher de rire en entendant une interprétation si favorable de ma triste équipée. Vous riez, reprit le vieux marquis. Bravo, nous allons nous comprendre. Ah, ça, mais qu'est-ce qui vous empêche de venir passer quelques jours chez moi? Ma femme m'a chargé de vous inviter. Elle a compris par le menu tous vos ennuis d'hier. Elle a une bonté d'ange, ma femme. Elle n'est plus jeune, elle est toujours malade. C'est un souffle, mais c'est un ange. Je vous logerai dans ma bibliothèque. Vous vivrez en ermite, si cela vous convient. Mon Dieu, je vois votre affaire, vous dis-je. Mes étourneaux vous font peur. Ah oui, vous êtes un homme sérieux. Je connais ce caractère-là. Eh bien, vous trouverez à qui parler. Ma femme est pleine d'esprit. Moi-même, je n'en manque pas. J'aime l'exercice. Il est nécessaire à ma santé. Mais il ne faut pas me prendre pour une brute, diable. Pas du tout, je vous étonnerai. Vous devez aimer le whist, nous le ferons ensemble. Vous devez aimer à bien vivre, délicatement, j'entends, comme il s'y est à un homme de goût et d'intelligence. Eh bien, puisque vous appréciez la bonne chère, je suis votre homme. J'ai un cuisinier excellent. J'en ai même deux pour le quart d'heure. Un qui part et l'autre qui arrive. Il y a conjonction. Cela fait une lutte savante, un tournoi académique dont vous m'aiderez à décerner le prix. Allons, ajouta-t-il en riant lui-même ingénument de son bavardage. « Voilà qui est dit, n'est-ce pas? Je vous enlève. » Heureux, Paul, l'homme qui sait dire non. Seul, il est vraiment maître de son temps, de sa fortune et de son honneur. Il faut savoir dire non. Même à un pauvre, même à une femme, même à un vieillard aimable,
sous peine de livrer à l'aventure sa charité, sa dignité et son indépendance. Faute d'un nom viril, que de misère, que de crime depuis Adam. Tandis que je pesais à part moi l'invitation qui m'était adressée, ces réflexions m'assaillirent en foule. J'en connus la profonde sagesse, et je dis oui. Oui fatal, par lequel je perdais mon paradis, échangeant une retraite complètement à mon gré, paisible, laborieuse, romanesque et libre, contre la gêne d'un séjour où la vie mondaine déploie toutes les fureurs de son insipide dissipation. Je réclamais le temps nécessaire pour préparer mon déménagement, et M. de Maluel me quitta après une chaleureuse poignée de main, en me déclarant que je lui plaisais fort et qu'il allait exciter ses deux cuisiniers à me faire un accueil triomphal. « Je vais, me dit-il, leur annoncer un artiste, un poète. Ça va leur monter l'imagination. » Vers 5 heures, 2 domestiques du château vinrent prendre mon mince bagage et m'avertirent qu'une voiture m'attendait au haut des collines. Je dis adieu à ma cellule, je remerciais mes hôtes, et j'embrassais leurs marmots, tout barbouillés et mal peignés qu'ils étaient. Ce petit monde sembla me voir partir avec regret. J'éprouvais moi-même une tristesse extraordinaire. Je ne sais quel étrange sentiment m'attachait à cette vallée, mais je la quittais le cœur serré comme on quitte une partie. À demain, Paul, car je n'en puis plus.